Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. On est ravis d'accueillir Guillaume de Zenet au Dorothy. Donc il y en a peut-être qui viennent pour la première fois ici au Dorothy. Donc on est un café associatif qui est animé par des chrétiens et qui est ouvert à tous dans un esprit de fraternité. On a plusieurs activités, on a des activités sociales. Donc on a un café solidaire plusieurs jours par semaine. On a aussi des activités intellectuelles, donc des conférences. On a également des activités artistiques et manuelles. Il y a des artistes qui vivent ici, qui travaillent ici dans le Dorothy et qui ont un local privatif. Et puis on a un bal folk aussi tous les mercredis soirs qui amène une centaine de personnes. Et puis j'ai oublié, dans les activités sociales, on a des associations qui viennent ici au Dorothy pour tenir des permanences, par exemple pour l'aide aux sans-papiers, pour donner des cours de français. Donc c'est un lieu qui est très vivant, on est ravis de vous accueillir tous ce soir. Et notamment pour parler de ton livre, Guillaume, qui est paru, Le Christ Rouge, aux éditions Salvator. C'est un livre qui est paru en août dernier. Et d'abord, si ça te va, je voulais qu'on parle un peu de toi. Donc toi, t'es prof de philo à Metz. T'es dans quel lycée ?
Je suis au lycée Cormontagny à Metz. Un lycée public.
Ok. Et t'es prof depuis combien de temps ?
Et je suis prof depuis 10 ans. Ouais. Même si tout le monde a l'impression que j'ai 25 ans. Mais en fait, non, j'en ai 35.
Et tu enseignes aussi en maison d'arrêt, je crois ?
Je fais un cours le lundi matin, ouais. À maison d'arrêt, mais c'est entre philo, on va dire, et groupe de parole, avec 8 adultes volontaires.
Et qu'est-ce que ça t'apporte ?
Ah, ça m'apporte beaucoup de choses. Est-ce que je parle assez fort ou pas ? Je parle pas très fort, sinon.
Tout le monde n'entend pas ?
Ok. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça m'apporte beaucoup de choses. Premièrement, je dirais une conscience du malheur. Au début, j'étais pas prof à la maison d'arrêt, j'étais visiteur de prison à la MVP, je sais pas s'il y en a qui connaissent, l'Association nationale des visiteurs de prison. Et j'ai visité une seule personne pendant 6 mois. Et en fait, à la fin, je voulais plus aller en prison. Même dans les derniers mois, j'y allais à reculons parce que je supportais pas le degré de malheur. C'était trop pour moi. Je m'étais pas rendu compte qu'on pouvait être à un degré de malheur aussi élevé, en fait. Et le gars, je vous dis vite fait, mais il était dans une cellule avec un autre co-détenu. Il y avait son co-détenu, en fait, il aimait pas la lumière du jour, donc il mettait des sacs poubelles sur les fenêtres. Donc il vivait tout le temps dans le noir. Le gars fumait tout le temps, donc c'était un aquarium. Il parlait la nuit, il dormait le jour et il se plaignait tout le temps. Il était dans la complainte perpétuelle. Donc imaginez de vivre comme ça. Donc moi, je le voyais une semaine, mais toutes les semaines, il avait envie de dégorger son co-détenu. Et par ailleurs, merci, c'est gentil. Il était là pour des crimes sexuels, ce qui veut dire qu'en prison, il n'y a pas le droit de promenade parce que c'est trop dangereux. Donc, en gros, il était bloqué dans un enfer sur Terre. Et moi, je sais pas, c'était étouffant. Donc, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je sais pas pourquoi je commence avec des trucs trash comme ça. Mais en tout cas, c'était ça, la première conscience du malheur. Et après, je sais pas, je suis un peu fasciné par les gars qui sont là-bas, par certains gars surtout. J'ai l'impression que la sociologie, globalement, c'est vrai, en gros. Que si quelqu'un est en échec scolaire, a une famille totalement déstructurée, et globalement dans une caste pas très bien perçue de la société, il a clairement tellement plus de chances de finir dans des embrouilles pas possibles. Donc ce serait mon deuxième constat. La sociologie, c'est vrai. Et après, je suis impressionné par le fait que il y a quand même de la joie, en fait. Dans cet endroit. Et par exemple, le cours, enfin, moi j'aimerais que mon cours soit un moment de joie. Donc du coup, je ne les fais pas du tout chier. Dès qu'ils partent sur un autre sujet, je laisse tout tomber, on part sur le sujet qu'ils veulent. Enfin, je suis genre au petit soin, on va dire. Et c'est assez. Il y a plutôt une bonne ambiance, en fait. Donc voilà.
Et donc, tu es l'auteur du Christ Rouge, donc c'est un livre qui propose une lecture politique de l'évangile. Si tu devais nous présenter ton livre, tu dirais quoi ?
Bah, c'est un livre, c'est des analyses de l'évangile que j'espère contemporaines. dans le sens où je me dis si le christianisme c'est une religion d'incarnation, bah, il faut que ça soit incarné. Et du coup, dans un temps et une époque, et si possible la nôtre. Et donc le réincarner sans cesse, ça me paraît nécessaire. Et après, c'est un livre... en gros, moi, dans l'Évangile, ce qui m'obsède le plus, c'est tous les appels à la justice. Et il y en a beaucoup. Il y a, voilà, heureux les affamés et assoiffés de justice, heureux les artisans de paix. Et surtout, chercher d'abord le royaume et la justice. Et même chercher le royaume, en fait, ça veut dire chercher la justice. Donc du coup, c'est cette partie, enfin cette partie, en fait c'est tout l'Évangile, mais c'est ça qui me fascine le plus, on va dire. Et je me suis dit, il faut écrire un livre là-dessus, parce que j'ai l'impression que chez les chrétiens, parfois la quête de justice passe derrière d'autres quêtes, du genre la quête de bien-être individuel.
Voilà. Ouais. Et justement, c'est ce que tu dis au début de ton livre, tu dis « J'étais un riche à Francfort qui se faisait passer pour décroissant, et aller passer une semaine à Malte, dans une maison avec piscine, je décidais que je prenais l'avion pour la dernière fois. » Est-ce que tu peux nous parler davantage de ce déclic ?
Ouais, c'est... Donc oui, je me considérais déjà comme décroissant, mais j'avais fait une sorte d'exception. Parce qu'il y a un ami qui m'a invité à Malte. Et... ouais, chacun ses contradictions. Et bref... Et en fait, à Francfort, j'avais du temps, du coup, je prenais l'avion. J'ai lu un magazine dans lequel il y avait écrit que, en gros, les riches parlent plus de dérèglement climatique, ils parlent plus d'écologie, etc. Ils sont plus même conscients des questions écologiques, mais ça n'empêche que malgré ça, ils polluent 10 fois plus que tout le monde. Et qu'en fait, ils sont quand même les plus gros responsables. Et du coup, je suis la merde, en fait, c'est moi, c'est exactement moi. Et je le savais déjà, mais en fait, c'est bizarre, parfois, il y a des choses qu'on sait... Mais il faut les savoir une deuxième fois pour les savoir, on va dire. Je le savais, mais là, j'étais là, ok, je ne peux plus ne plus le savoir, ne pas le savoir. Et donc, je me suis dit, bon, en gros, je suis un gros hypocrite. Il se trouve que le texte de l'Évangile que j'aime passe son temps à critiquer l'hypocrisie. Il y a une insulte dans la bouche de Jésus, c'est hypocrite. Insulte récurrente. Et en fait, c'est apparemment la plus grosse faute. Peut-être si on cherche un sens au mot péché, plutôt que de parler que de péché sexuel, il faudrait dire, bah, en fait, l'hypocrisie, voilà, un vrai péché. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je suis hypocrite, il est temps de changer, voilà, c'est tout. C'est un déclic.
Et donc maintenant, tu prends plus l'avion ?
Non. J'ai déjà trop pris, je pense. Apparemment, Jean-Marc Jancovici a fait une sorte de calcul, adepte de la règle de 3 qu'il est. Il a décidé qu'en gros, il fallait que chaque personne pouvait prendre 4 fois l'avion, sinon c'était trop. Donc moi, j'ai déjà dépassé le quota. Donc je peux plus le prendre. Question de cohérence, de base.
Et alors, pourquoi ce titre, Le Christ Rouge ?
Pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. La plus directe, c'est le rouge du communisme. C'est pas un mot que j'aurais employé il y a quelques années. Et communisme, moi, c'est un mot qui me faisait peur, on va dire, il y a quelques années. Comme à beaucoup de gens. Là, ces temps-ci, je reçois des critiques de gens qui sont là, oh, t'es fou, communisme et tout ça, machin. Bref, je pense qu'il y a peut-être 5 ans, j'aurais réagi exactement de la même manière. Mais c'est bizarre, mais moi, c'est la religion qui me mène au communisme. C'est peut-être un peu rare, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, c'est dans l'Évangile, et ce qui m'a, bon, c'est le cœur du livre, c'est la figure de l'intendant. Il y a beaucoup de paraboles économiques. En fait, je fais par étapes. Mais dans l'Évangile, ce qui m'a surpris en le lisant, c'est que ça parle énormément d'économie. Ça parle tout le temps d'argent. Il y a beaucoup de paraboles, et presque toutes les paraboles sont économiques. C'est-à-dire elles mettent en scène des chefs d'entreprise, des vignerons, des collecteurs d'impôts, des banquiers, des investisseurs de capital, etc. Et du coup, je me disais, en fait, ça parle tout le temps d'argent, ça parle tout le temps d'économie. Comment ça se fait que déjà, je ne m'en étais pas rendu compte avant, et on n'en avait pas tant parlé que ça, je trouvais ça bizarre. Et en analysant les paraboles, il y a une petite parabole qui m'a plus fasciné que les autres, celle du bon et du mauvais intendant, et en gros qui dit que déjà qu'on est des intendants, donc ce qui veut dire pas des propriétaires, c'est-à-dire il y a un propriétaire et un intendant qui gère ses biens. Et du coup je me suis dit, bah, ok, si on est des intendants, si c'est ça le statut humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété, d'une certaine manière rien n'est vraiment totalement à nous. Et le bon intendant, c'est toujours celui qui se sert de ses biens au service des autres. À chaque fois, pour qualifier le bon intendant, c'est celui qui, voilà, donne la nourriture en temps voulu aux gens de sa maison, par exemple. Et le mauvais intendant, c'est celui qui garde tout pour lui et qui s'approprie ce qu'il a reçu. Dans la parabole, c'est celui qui se goinfre et bat les gens de sa maison ou qui veut tout garder. Du coup, je me suis dit, mais en fait, ok, quel est le statut de la propriété? C'est que, un, on n'est pas propriétaire, les biens ne viennent pas de nous, deux, ils ne sont pas pour nous. Et je me suis dit, dans ce cas-là, ça veut dire que la propriété n'est pas privée, tout simplement. C'est le sens du communisme. C'est-à-dire, la propriété est commune, tout est à tous, les biens sont faits pour tous, et après, ça s'appelle communisme, ça. Donc, voilà. Donc, c'est Christ rouge dans ce sens-là. Et après, peut-être dans un autre sens, c'est que souvent on se dit, bon voilà, c'est un texte religieux, le Christ ça va être un être doux, bon. Et après on lit le texte, en fait, il passe son temps à être en conflit avec beaucoup de gens, notamment des gens puissants, et des conflits qui sont tellement violents que en fait, ça le met en danger de mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que à la fin qu'il meurt, en fait, c'est presque tout le temps, il y a des gens qui veulent le tuer. Et donc du coup, Christ rouge, dans le sens aussi Christ conflictuel, qui va s'opposer à des puissances, qui va prendre des risques du coup, et qui va mourir de ces risques-là. Et c'est pas ça arrive souvent, on va dire, qu'un être qui a une exigence de justice trop élevée pour une société, et qu'une société ne peut pas supporter, soit tué. C'est pas, y a pas que Jésus, il y a Socrate, il y a Martin Luther King, il y a Gandhi, il y en a plein en fait. Et du coup, c'est Christ rouge, dans le sens de Christ sanglant, parce que celui qui s'oppose à l'injustice, à un moment, s'il le fait d'une manière trop, je sais pas... trop bouleversante pour une société, il va être exclu de cette société à un moment.
Ici, on est au Dorothy. Notre figure d'inspiration, c'est Dorothy Day. Et Dorothy Day se définissait comme anarcho-communiste. Et donc, pour toi, Jésus, on pourrait dire qu'il est anarcho-communiste?
Oui, tout à fait. Mais je vois pas ce qu'il y a de drôle, en fait. Mais communiste, là, je viens d'expliquer. Anarchiste, c'est peut-être encore plus impressionnant. Et même chose, c'est pas un mot pour moi que j'aurais employé. Moi, je suis un petit bourge à la base. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'allais dire anarcho-communisme vient crasse. C'était pas la trajectoire initiale. Mais en gros, c'est anarchiste. Il y a une phrase en fait, anarchiste, totalement anarchiste, dans l'évangile. Quand Jésus dit, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître. Ne vous faites pas appeler père, car vous n'avez qu'un seul père. Du coup, ça veut dire pas de maître humain, pas de père humain. Et du coup, ça veut dire refus des pouvoirs humains. Et donc ça, c'est le sens de l'anarchisme. Après, on pourrait dire... Tu veux dire...
Vous me rendez à 6h ce qui est à 6h et tout ce qui est à
2h. Ouais.
Vous allez jeter bien l'ordre de César.
Ouais. Si je finis sur celle-là et après, je vais à celle-là. On pourrait... Moi, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais c'est bizarre. Si... En fait, souvent, les chrétiens, c'est les gens, en tout cas les catholiques, qui acceptent le mieux l'autorité. C'est bizarre, si on lit le texte, il y a une sorte de rejet de certaines formes d'autorité assez fort. Pourquoi nous, alors, on appelle tous les prêtres pères, les évêques monseigneurs, les papes sa sainteté? C'est un truc, c'est tellement opposé au texte, c'est absurde. Ça paraît en contradiction flagrante. Et on pourrait se dire, si écrit, ne vous faites pas appeler maître, mais on pourrait dire, il y a quand même Dieu qui est le maître. Ne vous faites pas appeler père, mais il y a quand même Dieu qui est le père. Donc on pourrait dire, il y a quand même, en fait, une forme d'autorité supérieure. Mais son incarnation, sous la forme de Jésus, elle est anti-autoritaire. Et c'est ça la deuxième chose qui m'a marqué. C'est qu'en fait, dans tout l'évangile, Jésus renonce lui-même à son pouvoir, tout le temps. Et en fait, en gros, quand il se fait appeler roi, c'est quand il est dans des positions d'anti-pouvoir, c'est-à-dire de pur service. En gros, il se fait appeler roi au moment où il lave des pieds des gens, de ses disciples. Donc c'est l'opposé total du pouvoir, c'est le service. Où il se fait appeler roi lorsqu'il est crucifié. Donc c'est l'antithèse absolue du pouvoir, en fait. Et même dans sa manière de parler avec les gens, on pourrait se dire il refuse le pouvoir parce qu'il refuse l'emprise. Il y a beaucoup de passages où les gens lui demandent de choisir leur place et lui, il les renvoie à leur responsabilité. Il dit, par exemple, il y a des gars qui viennent lui dire, est-ce que tu peux partager, dis à mon frère de partager l'héritage. Il dit, non, mais j'ai pas été appelé là pour ça, débrouillez-vous avec l'héritage. Ou bien il y a des gens qui lui posent des questions sur la justice, il lui dit, mais quand est-ce que vous allez savoir vous-même, par vous-même, ce qui est juste et injuste? Voilà. C'est, en gros, lui-même, il renvoie sans cesse à notre responsabilité. Et quand les gens n'aiment pas ce qu'il dit, quand il commence à dire des trucs trop bizarres du genre qui ne boit ma chair, qui ne mange ma chair et boit mon sang, des trucs où personne ne comprend rien, quand il dit ça, il y a plein de gens qui partent, et il dit, mais est-ce que vous voulez partir vous aussi, à ses propres disciples? Donc en gros, il laisse les gens partir, s'ils veulent partir, ils partent. Il n'y a pas de problème. Donc il y a une sorte de rejet d'emprise de sa part très fort. Je pense que c'est intéressant du coup qu'il, il proclame un royaume, un roi, alors qu'en fait, il refuse totalement le pouvoir. Et du coup, je trouve que ça ressemble à l'anarchisme, c'est-à-dire la quête d'un royaume, d'un ordre, dénué de pouvoir. La définition de Proudhon de l'anarchisme, c'est ça, c'est pas le désordre, c'est pas le bordel, c'est l'ordre sans le pouvoir. Et après, tout le monde peut dire, mais est-ce que ça peut marcher ? À certaines conditions, on va dire. Mais en tout cas, dans l'évangile, je trouve qu'il y a une forme anarchiste très forte. Est-ce que j'essaie de répondre à la question de...
Ouais, bah, sur ce que disait Alban, quand le Christ dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ça veut dire que le Christ, il fait. En fait, on n'a pas l'impression qu'il remet en cause le pouvoir civil. Pour lui, il y a le pouvoir civil qui est là, qui vit. Mais ce qui compte pour lui, c'est le royaume de Dieu. Il fait une hiérarchie entre ce pouvoir civil, même si on a l'impression qu'il fait une équivalence, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En réalité, ce qu'il veut dire par là, c'est que le royaume de Dieu, il est au-dessus, parce qu'il vaut tellement plus que le royaume de César.
Bon, je ne sais pas si j'arriverai à interpréter la phrase, mais parce que pour moi, elle est vachement compliquée. Mais en tout cas, je vais dire deux choses. C'est, à mon avis, une interprétation absurde du mot royaume. Parce que le mot royaume, on est obligé de l'interpréter. Parce qu'il est partout, dans tout l'évangile. C'est chercher le royaume, le royaume des cieux est comparable à machin. Donc on est obligé d'interpréter. Et c'est embarrassant. Parce que le royaume, ça fait penser à une théocratie. On est là, ouais. Moi, je suis un bon laïc français, j'ai pas envie de toucher à ça. Donc ça fait un peu peur, mais on est quand même obligé d'interpréter. Et je pense, l'idée qui dirait, il y a le royaume des cieux qui est dans les cieux, et le royaume de César qui est sur la terre, me paraît tout à fait absurde. Parce que le royaume des cieux signifie la justice. Et si on dit, voilà, la justice c'est hors de la terre, déjà premièrement, à quoi ça sert ? C'est quoi l'intérêt du coup ? Ce serait la critique marxiste, voilà, c'est l'opium du peuple, on rêve à un monde idéal pour pouvoir supporter cette vallée de larmes et tout ça. Mais c'est surtout contradictoire avec tous les appels à la mise en œuvre concrète de la justice. C'est-à-dire qu'en gros, c'est assez clair ce qu'on est appelé à faire si on lit le texte, c'est accueillir les étrangers, anoblir les prostituées, nourrir les affamés, visiter les malades, visiter les isolés, prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves, prendre soin des exclus, être juste envers ses travailleurs. Je veux dire, si on prend tout ça, c'est clair que ça parle pas de je sais pas où, ça parle de la terre. Et donc, pour moi, séparer un royaume des cieux et d'un royaume terrestre, ce serait un peu absurde. En fait, il y a un psaume, je trouve, qui donne la formule parfaite, c'est le ciel se penche sur la terre. Le royaume des cieux, pour moi, c'est ça. C'est lorsque ces idéaux de justice commencent à se répandre sur la terre. Et quand Jésus dit, c'est vrai que parfois il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, mais parfois il dit, le royaume s'est approché de vous, le royaume est arrivé parmi vous. Donc en même temps, il dit, ça a déjà commencé. C'est déjà parti, c'est déjà maintenant.
Ce que tu veux dire, c'est que le pouvoir terrestre, le pouvoir civil, doit être au service de la justice.
Oui.
Et c'est ça qui crée les conditions du royaume de Dieu, ici et maintenant.
Oui, oui.
Tu fais quoi de cette phrase, alors ?
Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que je fais de cette phrase ? Je sais pas, si, je dirais ça comme ça. C'est que, on va dire, la... Et c'est aussi anarchiste en un sens. C'est-à-dire que la mise en œuvre du royaume ne passe pas nécessairement par la prise de pouvoir. C'est-à-dire qu'elle ne passe pas par la prise de pouvoir. Et alors, elle passe par quoi ? Par des actes, moi je dirais. Par des gestes qui commencent dès maintenant, là où on est. Et on va dire... C'est vrai que parfois on pourrait se dire, mais pourquoi par exemple le Christ s'est pas opposé directement à l'Empire, etc. Non, je pense que sa stratégie elle est autre. Il se dit, je vais répondre d'une certaine manière. Il y a un homme qui m'a marqué, Marcello Tari, qui a dit cette phrase. Il a dit, une révolution des structures sociales, économiques, politiques, si elle ne s'accompagne pas d'une révolution intérieure, une révolution du cœur humain, elle va changer les choses pendant quelques mois, quelques années, et puis juste après, les structures de domination vont se recréer sous une forme quasi équivalente. Et du coup, ça n'aura pas marché. Et du coup, il ne peut pas y avoir de révolution, on va dire, sérieuse, sans révolution intérieure, révolution des cœurs. je sais pas, j'interpréterai aujourd'hui cette phrase comme ça, mais je vais continuer à réfléchir parce que pour de vrai, cette phrase m'embarrasse. Mais en tout cas, pour l'instant, j'interpréterai comme ça en disant c'est, ce qui compte, c'est pour la révolution de justice, c'est pas tellement la prise de pouvoir, c'est la transformation des cœurs qui implique ou qui, on va dire, suscite des actes de justice et petit à petit une transformation des structures, mais pas dans le sens inverse, ou peut-être dans les deux sens en même temps.
Ouais, donc par des actes généreux, tu dis la générosité sans justice, c'est le fait de donner ponctuellement sans jamais chercher à remettre en cause les structures sociales qui suscitent la pauvreté. Ça veut dire qu'on est appelé à remettre en cause ces structures sociales. Mais est-ce que c'est pas une vision un peu décourageante pour une personne lambda qui fait l'aumône chaque jour à un pauvre, par exemple?
C'est peut-être décourageant dans le sens où c'est exigeant, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, en gros, tout l'évangile appelle à un saut dans notre désir de justice. L'évangile, ça commence par Sermon sur la montagne. Je vais me tourner vers là parce que sinon, j'ai l'impression que je parle que là. Mais en gros, ça invite à un saut. C'est-à-dire que ça commence en disant si votre justice n'est pas supérieure à celle des gens justes, genre les pharisiens, ça ira pas. Ça va pas suffire. Et en gros, la justice des gens justes, c'est une justice normale. Ça veut dire que ça consiste à aimer ses amis, ne pas aimer ses ennemis. Logique, on va dire. Ça consiste à accueillir, accueillir ses amis, mais pas les autres. Ça consiste à pardonner une fois, mais pas 10 000 fois, parce que trop bon, trop con. Donc, c'est une justice normale. Et en gros, l'évangile, ça commence en disant, non, mais si tu fais que cette justice, ça suffira pas. La justice, c'est beaucoup plus dur, en fait. C'est aime tes ennemis. C'est pardonne 77 fois, 7 fois. C'est pas juste ne commets pas l'adultère, mais n'aie pas de convoitise. On ne commence même pas les violences sexistes et sexuelles au début, parce que déjà ça va mener à plus loin, etc. Donc c'est hyper exigeant. Alors décourageant, peut-être, ouais. C'est vrai, en un sens, l'évangile est impossible à accomplir tellement il est exigeant. Moi, je trouve que c'est pas tellement décourageant, parce que c'est, on va dire, ça donne plutôt une sorte de souffle quand on lit le truc. À un moment, je sais pas, mais on est saisi, on est là, ouais, mais ma vie, elle est totalement injuste. C'est beaucoup plus qu'il y a, et puis c'est attirant. Et en fait, je vais dire d'une autre manière. Ce qui est décourageant, ça devient attirant une fois que des gens le mettent en œuvre. Parce que on peut pas, imposer ou apprendre une morale en disant si tu fais pas ça, c'est pas bien. Par contre, si quelqu'un est moral, on va dire, et accomplit des actes de justice assez élevés, en fait, généralement, ça va nous émouvoir. Et après, on aura envie de faire la même chose. Et donc, je pense que, on va dire, c'est une justice très exigeante, mais qui n'est pas décourageante si on en voit des traces, qu'on est saisi par cet esprit-là, je trouve. Et après, une autre manière de dire que c'est pas, enfin, ça pourrait être décourageant, mais heureusement, il y a l'omniprésent pardon. C'est-à-dire, vu que c'est impossible, heureusement qu'il y a le pardon perpétuel, parce que sinon, on serait en effet découragé, je pense.
Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, en fait, il est découpé en trois parties. Il y a une première partie sur l'avoir, donc la propriété privée, la possession. Il y a une deuxième partie sur le pouvoir, notre rapport au pouvoir. Et une troisième partie, c'est que faire. Et moi, je voulais revenir, tu en as un peu parlé, de la propriété privée. Comment est-ce que tu vois, toi, par exemple, le fait que des personnes s'opposent à la construction d'une méga-bassine? Ils disent que c'est une appropriation de l'eau qui est un bien commun. Est-ce que tu penses que c'est une traduction concrète, du coup, de l'Évangile?
Oui. La forme aussi compte. C'est-à-dire, moi, par exemple, je ne me réjouirais pas si quelqu'un envoie un cocktail Molotov sur un flic, je ne me réjouirais pas. Donc la forme est toujours questionnable. Après, sur le fond, oui. C'est un beau geste. Et en effet, c'est un exemple, les méga-bassines, ouais, je pense, d'appropriation privative d'un bien commun. Les questions écologiques, elle peut être formulée comme appropriation privative des ressources communes, c'est clair. L'eau, c'est un exemple parmi d'autres. Par exemple, j'ai appris que les pétroliers, lorsqu'ils pompent du pétrole, ils appellent ça production de pétrole. Ils disent qu'ils produisent du pétrole. Bien sûr qu'ils n'ont pas produit. Ils l'ont juste puisé, raffiné. mais c'est la nature qui l'a produit. Du coup, je trouve que c'est, pour moi, c'est devenu le symbole de l'appropriation des biens communs, comme mot. Dire ah, j'ai produit. Hop, ça veut dire hop, du coup, j'ai produit, donc c'est à moi, donc je peux vendre. Mais c'est commun, c'est évidemment un bien commun. Un autre bien commun en train d'être privatisé, c'est le ciel lui-même. Parce que, en gros, les gens comme Elon Musk ont décidé de mettre tellement de satellites en orbite qu'ils vont même rendre la nuit et les étoiles moins visibles à nos yeux. Donc là, c'est un bien évidemment commun. D'ailleurs, c'est tellement commun que si on n'a rien à se dire, on va parler du temps, du ciel. On va parler du temps qui passe. Parce que c'est ce qu'on a de plus commun, la base du commun. Donc même ça, ça peut être en partie privatisé. Et donc oui, moi je répondrais oui. Pour l'eau, c'est un problème massif. Parce que bon, voilà, c'est tellement nécessaire, on va dire, et dans la vie humaine et dans nos systèmes agricoles, que on va dire, si c'est pas réparti de manière collective et partagée, ben, c'est un enfer en fait, en un certain sens. Bon, mais là, les méga bassines, c'est surtout que c'est une privatisation. Enfin, on va dire, une manière d'utiliser l'eau qui vise surtout à rendre pérenne un système agricole qui n'est pas pérenne. Donc, du coup, ça sert surtout à faire durer un système agricole qu'il faudrait modifier à tout prix. Et donc, oui, je pense que c'est absolument nécessaire qu'il y ait une opposition
sur ça. Et puis, tu vas plus loin aussi, tu dis la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Et tu cites même Saint Grégoire le Grand, qui dit que quand on donne à un pauvre, en fait, on lui rend ce qui est à lui.
Ouais.
C'est vraiment un renversement, en fait,
ouais.
Cette façon de penser.
Ouais, c'est vrai que j'ai découvert ça, que les pères de l'Église étaient des communistes forcenés. Et c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que c'est des phrases vraiment fascinantes. Quand ils disent, en gros, si un riche ne donne pas à un pauvre, c'est pas qu'il manque de générosité, c'est qu'il le vole. Ça s'écrit, c'est le père de l'Église qui dit ça. Ils le volent. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas donné, c'est pas à eux, en fait. Donc, ce qu'ils ont, ce n'est pas à eux. Donc, leur argent n'est pas à eux. Il est à tous. Donc, s'ils le gardent, c'est un vol. Bon, mais au final, ça ressemble à Marx, quoi. C'est d'une autre manière. C'est le côté, si quelqu'un s'enrichit beaucoup, généralement, c'est pas grâce à son travail et à son mérite extraordinaire, parce qu'il est, en effet, 50 000 fois plus efficace que ses ouvriers. Non. S'il est si riche, c'est parce qu'il a pris la plus-value du travail des autres. Donc son argent est objectivement même un vol. Donc, ouais. Mais je voudrais dire quand même une autre chose sur ta phrase. J'ai dit la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. En fait, moi, je pense pas que c'est ça, la justice. Ça, c'est le sens le plus basique de la justice. Mais je voudrais interpréter, si tu me laisses développer, mais la fameuse parabole des ouvriers de la dernière heure. Parce que je trouve que là, il y a une réflexion sur ce sens de la justice qui est passionnante. Parce que donc vous voyez en gros la parabole, il y a des gens qui travaillent, ils ont signé un contrat, donc on va dire, ils font les vendanges, on va dire, le contrat ça va être 100 euros la journée par exemple, et du coup le maître il sort à plusieurs moments de la journée, donc le matin, peut-être à 10h du matin, à midi, à 15h, et il embauche tout le monde. Et à la fin il paye les salaires devant tout le monde, de manière un peu, démonstrative, pour que tout le monde voit, je pense. Que tout le monde voit ce qu'il fait. Et donc les derniers, ils commencent par les derniers, ceux qui ont travaillé juste une heure, ils les payent 100 euros. Donc le prix, normalement, d'une journée entière de travail. Et ils payent tout le monde 100 euros. Et les derniers, du coup, forcément, ils se plaignent, ils disent, mais c'est totalement injuste. Eux, ils ont bossé une heure, moi j'ai bossé énormément. Donc tu respectes pas la justice, puisque tu respectes pas le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû. Parce que rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est la méritocratie. C'est ce que je mérite. Si j'ai plus travaillé, je mérite plus. Si j'ai moins travaillé, je mérite moins, etc. Donc ça, c'est le premier sens de la justice. Et d'une certaine manière, l'Évangile le respecte un peu, ce sens de la justice, en disant, écoute, je t'ai payé au tarif horaire, donc j'ai respecté quand même le mérite, en tout cas envers toi, envers les premiers. Mais en même temps, il dit, mais il y a un deuxième sens de la justice qui est différent. C'est que c'est l'égalité. J'ai payé tout le monde exactement la même chose. Donc deuxième sens, non pas payer selon le mérite, mais l'égalité. Et c'est pas absurde, parce qu'on peut se dire tout le monde a les mêmes besoins, à peu près. Tout le monde a besoin d'un logement, de manger de la nourriture de bonne qualité, d'avoir pas trop froid, etc. Donc l'égalité, ça paraît pas absurde. Tout le monde a à peu près besoin d'une quantité similaire d'argent. Donc, deuxième sens de justice, égalité. Mais après, il y a un troisième sens, qui est encore plus profond. C'est qu'en fait, il veut que les premiers, ils voient qu'ils payent cher les derniers. Qu'ils payent cher les derniers. Et pourquoi ils les payent cher? Pas pour leur mérite, ils ont presque pas bossé. Mais pourquoi du coup? Et en fait, je me suis demandé, c'est qui ces gens qui n'ont pas de travail à 15 heures? Ces gens dont personne ne veut. Pourquoi personne n'en veut? Parce qu'ils sont inefficaces peut-être. Ou peut-être parce que, je sais pas, c'est des repris de justice. Ou peut-être parce qu'ils sont moches. Ou peut-être parce que ils sont, j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont, en fait, ils sont non inclus dans cette société. Et du coup, si eux, on les paye au mérite, ils sont morts. Ils seront jamais inclus. Donc il faut sortir totalement du mérite, les surpayer pour les réintégrer. Et du coup, le troisième sens de justice, c'est l'inclusion en fait. Donc l'inclusion sociale de tous dans la société. Et je trouve cette parabole magnifique parce qu'en gros, elle dit donner à chacun selon son mérite, ok, c'est la justice de base, on va dire, mais c'est pas ça. Là. Il y a des justices largement supérieures, l'égalité déjà. Ça, c'est une notion de justice un peu balèze, mais ça suffit pas en fait. Il faut sortir de l'égalité, parce que l'égalité, ça va tuer, ça va encore tuer des gens parce qu'ils sont non inclus. Donc la vraie justice, c'est que tout le monde ait une place dans une société unie. Voilà.
Et tu dis aussi que, tu rappelles le fait que les mauvais intendants, on leur retire la gestion des biens. En fait, on les exproprie. Et souvent, quand on pense à l'expropriation, on pense à quelque chose de violent. Et toi, justement, tu rappelles que cette expropriation, elle est justifiée. Mais qu'il faut se prémunir du danger de la violence physique.
Oui. J'aime bien, en fait, c'est un chapitre, je l'ai intitulé Théologie de l'expropriation, c'est mon titre préféré. Je ne suis pas mécontent. L'amour de soi, c'est important. Parce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ça fait que je vais devoir vous aimer beaucoup. En suis-je capable? Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Oui.
L'expropriation.
En fait, c'est étonnant. C'est toutes les paraboles des intendants, elles finissent mal. Elles finissent super mal en fait. C'est à chaque fois, ça finit en disant, ok, pour toi qui t'es approprié les biens, ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Pleurs et grincements de dents. Ou bien t'as pas utilisé ton talent, on va te l'enlever. Ou bien ta vigne, tu t'en es mal occupé, tu voulais tout garder pour toi. On va la retirer, on va te retirer la gérance, on va la donner à quelqu'un d'autre. Et puis toi, peut-être, tu seras égorgé. Donc là, on lit le texte, on va wow. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est super violent? Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, on est obligé d'interpréter ces fins. Et en tout cas, en fait, finalement, l'interprétation, elle est assez basique. C'est-à-dire, si un bien commun est approprié par une personne privée au point de déstabiliser un ordre social, au point de mettre à mal un ordre commun, au point d'appauvrir des pauvres, etc., c'est intenable. On ne peut pas supporter une telle situation. Donc, on ne peut pas ne pas la punir, en fait. Et du coup, là, la punition, c'est même pas vraiment une punition, ça consiste surtout à retirer la gérance, donc exproprier. Exproprier une expropriation, en fait. Parce qu'en fait, c'est si les gens se sont appropriés quelque chose qui était un bien commun, ils ont exproprié déjà. Ils ont exproprié les pauvres. Donc du coup, exproprier l'expropriateur, est-ce que c'est encore l'exproprier? En tout cas, c'est juste un retour à la normale, on va dire. Après, comment le faire? Forcément, c'est un problème sérieux. Je me suis souvenu d'une lettre, la lettre de Proudhon à Marx, qui a dit « Je m'oppose à la Saint-Barthélemy des propriétaires. » Parce que Proudhon, il avait peur, en lisant tous les passages de Marx sur l'expropriation, qu'au final, on se mette à égorger les propriétaires et que ça finisse dans un bain de sang. Et forcément, ça m'a marqué, parce que... Comment faire une expropriation qui ne tourne pas au bain de sang? Franchement, c'est une question très très compliquée, je trouve. Parce que surtout que personne qui a du pouvoir et qui aime le pouvoir ne va se laisser facilement exproprier. En fait, normalement, quelqu'un qui aime le pouvoir, il va résister beaucoup à l'expropriation. Et du coup, je sais pas trop. En fait, là, je cherche. Mais... Je cherche la voie étroite qui consiste à viser l'expropriation sans quitter l'amour des ennemis. C'est-à-dire qu'il est possible d'aimer les grands propriétaires tout en désirant les exproprier. C'est ça le but, je pense.
Et pour toi, ça serait quoi être un intendant aujourd'hui?
C'est vraiment... Ce mot-là, intendant, il est applicable à tous les domaines sans exception. je sais pas, parce que quelqu'un est parent, par exemple, et intendant pour une famille. Quelqu'un est bénévole au Dorothy, il est intendant pour le Dorothy. Quelqu'un est psychologue, et intendant de ses patients. Quelqu'un est prof, il est intendant pour ses élèves. Quelqu'un est... On est tous intendants, en gros. Du coup, c'est un mot ultra large, avec, à des petites échelles ou des grandes échelles. Quelqu'un qui fait de la politique et intendant pour des biens importants. Donc je trouve que c'est ça qui est charmant dans ce terme, je trouve, c'est qu'il est vraiment applicable multiplement. Ce mot n'existe pas, mais de manière multiple.
Moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que tu parles beaucoup de la question des corps. Tu dis que la vie spirituelle, elle se formule en termes matériels et que l'action, elle doit être au service des corps. Est-ce que tu peux développer un peu cette pensée ?
Oui. Pierre-Louis, ici présent, il m'avait passé un jour un texte sur le matérialisme qui m'a marqué. Il disait, en gros, il y a un bon matérialisme, celui des autres, et un mauvais matérialisme, le mien. Et ça m'avait marqué en disant, le matérialisme des autres, c'est vouloir que tout c'est de quoi manger, par exemple, et un toit, et que leurs besoins matériels soient satisfaits, soient soignés quand ils sont malades, etc. C'est un matérialisme, c'est-à-dire on s'intéresse à la situation matérielle des gens. Et en fait, c'est la spiritualité. C'est ça qui est intéressant, c'est une spiritualité qui ne s'occupe pas de matière, un esprit sans matière. C'est de la merde, je dirais, un peu, c'est pas intéressant, c'est pas ça en fait. C'est, la spiritualité, en effet, c'est contient le fait de s'occuper des corps. Et si on regarde l'évangile, ça parle que de corps tout le temps. Ça parle que de matière, ça parle que de repas, ça parle que de soins des corps. Tous les miracles sont la libération d'un sens, le fait que des boiteux se mettent à marcher, le fait que des lépreux retrouvent la santé, etc. Donc ça parle de corps sans cesse. Et peut-être le passage, peut-être pour moi, un des passages les plus importants de l'évangile, c'est le parabole du jugement dernier, qui dit qui transforme la notion de sacré. C'est-à-dire, si le sacré, c'est la manifestation de Dieu, bah on pourrait dire Jésus, c'est la manifestation de Dieu, c'est sacré, et le corps de Jésus, c'est sacré, mais quel est le corps de Jésus ? Et dans la parabole du jugement dernier, il dit, je vais vous dire, quel est le corps de Jésus ? C'est ce que vous faites à ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous le faites. Donc le corps de Jésus, c'est l'affamé, l'assoiffé, ceux qui sont nus, etc. Et en fait, ce qui est sacré, c'est les êtres vulnérables. En fait, ce qui est sacré, c'est les êtres vulnérables. Et du coup, la spiritualité, qui serait la quête du sacré, en fait, c'est l'action sociale pour la justice. C'est le soin des personnes vulnérables à l'échelle inter-individuelle et à l'échelle structurelle. On dirait, je trouve ça... Donc c'est vrai que je pense que la spiritualité chrétienne, c'est une spiritualité matérialiste, on pourrait dire. Et c'est pas un oxymore, c'est... Voilà.
Quand tu abordes la question du pouvoir, tu parles aussi de la violence. Et tu cites à un moment une formule terrible de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Et après, tu expliques le fond de sa pensée. Est-ce que tu peux nous le partager ?
Je m'en souvenais plus en plus. Bah oui.
Tu sais, sur les cœurs mauvais.
Oui. Ça fait partie des passages troublants, un peu comme celui que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment bizarre. On dit heureux les doux, et puis après, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Ok, mais c'est gentil, mais comment on interprète ? En fait, ce qui m'a marqué. Je vais répondre en deux coups, mais je trouve que dans l'évangile, il y a beaucoup de violence, déjà. Et je prends le début, par exemple, Noël. Noël, c'est violent. Parce que si vous regardez, ça se passe dans un exil forcé, où, en gros, Jésus et Marie sont exclus, personne veut, il n'y a plus de place pour eux, ils se retrouvent avec les animaux... Donc c'est un peu violent, mais surtout, il y a le massacre des innocents. Donc ça commence par un truc ultra trash, quoi. Où Hérode décide de massacrer tous les enfants parce qu'il a peur d'être exproprié de son statut de roi par un nouveau roi. Donc ça commence dans la violence. Au début de la prédication, quand il est dans la synagogue, il lit un texte, il commence à l'interpréter, les gens, il énerve les gens, parce qu'il leur dit qu'il ne va pas faire de miracle pour eux, etc. Il les énerve, ils veulent le tuer. Donc dès le début, ils veulent le tuer. Il y a un truc comme ça, un peu violent. Je me suis dit, comment ça se fait qu'un être bon suscite autant de violence? Et c'est aussi embarrassant, parce qu'on se dit, mais du coup, est-ce que la bonté et la quête de la justice, si ça a pour effet des massacres des innocents et des meurtres, c'est angoissant un peu. Et je pense que, à mon avis, on peut comprendre ça comme ça, c'est que un modèle de bonté extrême est insupportable pour des êtres injustes. En fait, ça, on va dire, lorsque la bonté est trop grande, elle suscite, un mélange de jalousie, peut-être de honte de soi trop forte, qui fait qu'on va, on ne peut, il y a une sorte de réaction violente des cœurs mauvais. Et je pensais par exemple dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, il y a un passage comme ça où celui qui a tué sa sœur, c'est un modèle de bonté extrême, elle prend soin de lui, elle veut son bien, elle s'occupe de lui et tout. Et lui, il veut plus la voir, il ne la supporte plus, parce qu'il se sent coupable et ne supporte plus sa bonté. Et je trouve ça, c'est un truc un peu fréquent. La bonté, peut-être, a un caractère insupportable. Et je pense, je suis venu apporter le glaive, moi j'ai interprété ça comme ça. C'est si quelqu'un arrive avec une exigence de justice élevée et des actes bons, et que lorsqu'on cherche à l'irriter, il pardonne, des trucs comme ça, ça va susciter bizarrement de la violence. Si quelqu'un, commence à défendre l'idée que les biens sont à tous et à faire des actes en ce sens, c'est sûr qu'il va provoquer la violence de ceux qui possèdent beaucoup, en tout cas d'une partie de ceux qui possèdent beaucoup. Il y aura peut-être des Nicodèmes, des gens qui sont là, ouais, peut-être qu'il a raison, etc. Mais en tout cas, ça ne peut pas ne pas susciter de violence. Et du coup, il y a un truc un peu triste, un truc un peu tragique, peut-être ça le Christ rouge aussi, qu'il ne peut pas y avoir de révolution sans violence, mais pas dans le sens, dans la violence comme moyen d'action, mais la violence comme réaction contre la justice.
J'ai vu que vous vouliez interpeller.
Oui, parce qu'en fait, Paul vous parlait beaucoup du fait que oh là là, Jésus le pauvre, il provoque les gens, ils le détestent tellement, ils sont violents, mais en fait, lui aussi, il est violent. Il y a le passage, je pense, hyper choqué, le passage avec Anani et Saphira. Bon, ils ne font pas ce qui est prévu, du coup, ils meurent. Alors, je ne fais pas une réponse de cato, genre, non, mais c'est symboliquement, ils meurent dans Dieu. En fait, ils meurent. Le Christ, la dictature du prolétariat. C'est exactement ça, c'est-à-dire, voilà, on peut mettre tout en commun, et ceux qui sont pas d'accord, ils
Est-ce que tout le monde connaît le passage Anani et Saphir? Mais c'est pas dans l'évangile, c'est dans les actes des apôtres, c'est après, mais c'est vrai que c'est un passage un peu spécial où... Mais en fait, c'est lié au communisme en plus, ce passage. Parce que c'est le moment où les premiers apôtres mettent tous leurs biens en commun, ils vendent, enfin les premiers disciples ou les premiers chrétiens, on va dire, ils vendent leurs biens et ils rapportent l'argent et au pied des apôtres, c'est ça qui est écrit. Et après, c'est réparti selon les besoins. Et en fait, Anani et Saphir, c'est un couple qui décide d'apporter l'argent, mais d'en garder une partie et de ne pas le dire, en fait. Donc ils mentent sur et ils essaient de se faire passer, on va dire, pour communistes chrétiens, et en même temps de s'enrichir personnellement. Et en effet, il y a un moment ici, lorsque c'est... Je me souviens plus exactement, mais lorsque c'est révélé, il meurt sur place. Enfin, c'est vrai que c'est assez trash et un peu troublant. En plus, ça fait peur aux gens. Il est écrit qu'après, les gens étaient un peu terrifiés. Je sais pas trop comment interpréter ce passage. C'est pas très gentil comme question, parce que... Ouais, je sais pas trop quoi en dire. C'est vrai que dit comme ça, ça ressemble un peu à un jugement dernier, pas dernier, quoi, directement sur place.
Si vous voulez, vous pouvez en reparler à la fin. J'ai encore 10 minutes de questions. J'ai encore 10 minutes de questions, et puis après, il y aura des questions du public. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que donc tu parles beaucoup de la question de la justice.
Attends, excuse-moi, ouais. Quand même.
Ah oui.
Parce que t'as dit quand même dictature du prolétariat, mais les apôtres n'ont pas tué Ananias et Saphira. Personne ne les a tués. Ils sont morts, on va dire. Peut-être Dieu les a tués, j'en sais rien, mais c'est dictature de prolétariat, ça voudrait dire on tue. Aussi, enfin, je sais pas, en tout cas, dans la manière dont tu l'as dit, j'ai l'impression que c'est ça que ça voulait dire. Bon,
tu relirais le passage.
Ouais.
Est-ce que tu penses que la question de la justice, ça se limite que à ces questions économiques? Tu vois, la domination, elle s'exerce aussi de façon raciale, elle s'exerce aussi sur la question du genre, sur la question de la mémoire. Donc, est-ce que pour toi, la justice, ça se réduit qu'à la sphère économique?
Non. Ça ne se réduit pas qu'à la sphère économique. C'est vrai que le livre, il est assez économique. Peut-être, c'est un reproche qu'on peut lui faire. Il a peut-être un côté un peu 19e siècle. Et c'est vrai. Mais en tout cas, non, je vais prendre peut-être deux exemples. Mais puisque tu parles d'inégalité de genre et raciale, je pense qu'il y a un épisode fameux qui est celui de la Cananéenne que tu avais interprété avec Edith, exactement. En fait, Edith et Anne ont fait une interprétation marquante de l'épisode de la Cananéenne, de la Syrophénicienne, c'est ça, qui est un passage où d'une certaine manière Jésus a une sorte de stratégie et il est dérouté de cette stratégie, c'est-à-dire sa stratégie, c'est de dire ben on peut pas tout faire d'un coup, donc on va commencer plutôt par les Juifs et après étendre aux autres peuples l'annonce du royaume. Et en fait, la Syrophénicienne, elle arrive, elle dit non mais en fait commence par moi. Donc c'est une femme étrangère d'une autre religion et Jésus dit non mais c'est les Juifs d'abord, c'est ça le plan, donc ça va pas être possible. Et en fait elle dit non mais en fait, moi, même si je peux avoir les miettes, c'est bon, je prends. Et donc, lui, et en fait, il dit OK, en fait, il y a plus de foi en elle que chez mes propres co-religionnaires. Donc, on modifie le plan. On commence directement à l'échelle universelle. Et je pense que c'est un passage intéressant, parce que, déjà, un passage intéressant dans le sens où on peut voir que Jésus se désapproprie aussi de ses stratégies. Il modifie la stratégie selon les rencontres qu'il fait, ce qui est aussi un modèle d'action magnifique. C'est-à-dire on doit faire des stratégies pour agir, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de savoir se laisser dérouter, désapproprier de la stratégie initiale par des rencontres qui nous font voir ce qu'on ne voyait pas. Et il y a plein de choses qu'on ne voit pas. En fait, en tout cas, moi, sur les questions raciales et genrées, je suis un aveugle forcené. Donc du coup, le livre, il est 19e, et j'espère que je vais me laisser dérouter. Mais je prends un exemple basique. Par exemple, j'ai lu Americana, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, de Chimamanda Ngozi Adichie. Et ça m'a vraiment plu, parce que je me suis dit, pourquoi ne pas me mettre dans la peau d'une femme nigériane émigrée aux États-Unis? Un roman permet ça, de prendre un point de vue qui est totalement différent du mien. Et ça m'a dérouté, on va dire. Donc je n'ai rien d'autre à dire pour l'instant.
Il y a deux parties dans le livre où tu abordes la question écologique, en disant notamment qu'il faut qu'on sorte d'un anthropocentrisme déviant. En quoi pour toi le christianisme, c'est une religion anthropocentrique?
Oui, donc je ne me suis pas trop embêté, parce que c'est pas moi qui ai trouvé cette formule, sortir de l'anthropocentrisme déviant, c'est le pape François, à qui j'ai emprunté discrètement. Mais je précise que les idées sont faites pour être volées, puisque précisément les biens sont à tous, mais les idées encore plus. Puisque par exemple, s'il y a une pizza, que chacun prend une part, enfin si je prends une part, il n'y a plus que 7 parts par exemple dans la pizza, mais s'il y a 8 idées et que je prends une idée, il y a 9 idées, puisque celui à qui je l'ai pris ne l'a pas perdu. Donc c'est vraiment des biens communs de l'extrême, les idées. Et du coup, c'était... Ah oui, anthropocentrisme déviant. Ouais. Que le christianisme soit une religion anthropocentrique, c'est clair, puisque, on va dire, il y a l'idée que l'homme est imago Dei, image de Dieu, qui a, on va dire, la dignité humaine est vraiment... déployé presque à son extrême, l'homme sacralisé. Et du coup, forcément, c'est une religion qui a tellement insisté sur la dignité humaine qu'elle l'a aussi séparée des autres créatures. Et du coup, l'anthropocentrisme déviant, ça aurait été... c'est le moment où, en gros, on a considéré cette dignité humaine comme étant, d'une certaine manière, la légitimation d'une domination de l'homme sur le reste de la nature. Et du coup, un anthropocentrisme corrigé, c'est pas très compliqué, ça consisterait à réintégrer l'homme dans la nature dont il est toujours une partie, et non pas un point externe. Et peut-être d'élargir la dignité des créatures à l'intégralité des êtres, et pas simplement aux humains. Il y a un passage évangélique, par exemple, qui est intéressant, c'est celui des lys des champs et les oiseaux du ciel, où Jésus fait des lys des champs et des oiseaux un modèle, en fait, pour nous, en disant ils sont moins soucieux, ils sont moins inquiets que vous, donc c'est un peu le modèle de la foi, on va dire, l'absence d'inquiétude, la confiance. Alors, ça se trouve plus chez les oiseaux et les lys, et puis il invite à les observer. Il dit, observez les lys des champs, regardez les oiseaux du ciel, et je trouve que c'est une invitation à une sorte de dynamique de contemplation des êtres naturels dont on a grand besoin.
D'ailleurs, tu finis le livre sur ce chapitre, la lutte et la contemplation, l'action et la prière. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des raisons d'espérer et de construire dans le monde dans lequel on vit ?
Ouais, lutte et contemplation, c'est pour moi, j'aime bien cette expression. Je trouve dans l'Évangile, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est très visible, l'alternance entre lutte et contemplation. Notamment avec les déplacements de Jésus dans l'Évangile. Donc il y a beaucoup, beaucoup de déplacements. Il passe son temps à se balader. Et en fait, il passe notamment dans deux types de lieux. Les montagnes et les déserts, où généralement il est tout seul. Et il prie. Donc ces moments de solitude, de contemplation, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Et des moments inverses, où il est plutôt dans la ville ou sur la mer, que pour moi j'ai interprété comme étant un peu la ville, c'est-à-dire le lieu de tous les dangers et le lieu de la lutte, on va dire. Et j'aime bien le fait qu'il y ait une sorte d'alternance perpétuelle entre les deux. Je trouve, je vais citer Edith qui est là, parce que quand Edith était à Calais cet été, et à Calais, donc il y a des gens qui sont dans l'action sociale, la lutte pour la justice, on va dire. Et une chose dont on avait parlé aussi, une autre militante de là-bas avait écrit une lettre là-dessus, c'était que, en fait, à force d'être dans l'action sociale, certains finissent par être désespérés, parce que lorsqu'on lutte pour la justice, on se prend forcément de face le mur de l'injustice. On est là, putain, mais c'est impossible. Et en plus, il y en a pas mal qui finissent dans la haine. La haine de Darmanin, la haine de l'État, la haine du monde injuste, etc. Et en fait, ça finit dans un truc où il n'y a plus d'enthousiasme pour l'action. Et du coup, je pense que la lutte sans la contemplation, ça finit par être désespérant, d'une part, et ça finit par être par rendre haineux. Et du coup, je pense que ce n'est pas possible, en fait, de mener une lutte qui contienne l'amour des ennemis, le pardon et l'espoir, qui sont nécessaires à toute action, on va dire, sans qu'il y ait une dimension de contemplation. Donc moi, je pense que cette espèce d'alternance entre les deux est très intéressante.
Et toi, Guillaume, comment tu vis tous ces principes dans ta vie quotidienne ?
Je sais pas trop envie de répondre, parce que ouais, je sais pas, c'est un peu plus on en parle. Non, je sais pas, mais... je fais des petites choses, mais c'est des petites crottes de nez par rapport à l'exigence du texte. Mais bon, j'en parlerai en privé si vous voulez, plutôt.
Et une dernière question. Quel retour tu as eu déjà sur ton livre et sur des catholiques qui ne sont pas forcément familiers avec toutes ces réflexions ?
Ah ouais, là je commence à avoir des retours marrants. Mais globalement, il y a plutôt des retours, des plutôt bons retours. Des gens disent, ah ouais, j'avais jamais vu le texte comme ça. Et quelqu'un qui m'a dit, Ah, mais moi, quand ça parlait d'argent, je pensais pas que ça parlait d'argent. J'adore cette phrase. Parce que moi, ma clé d'interprétation, c'est quand ça parle d'argent, c'est que ça parle d'argent. C'est ma clé herméneutique centrale. Et du coup, y a les meilleurs retours, enfin les plus positifs, c'est des gens qui disent ça donne envie d'agir. Il y a un de mes collègues qui n'est pas chrétien, qui est prof de philo aussi, un vrai communiste par contre. Et lui, il m'a dit ça m'a trop donné envie de faire plein de trucs. Donc ça, c'était un très bon retour. Et là aussi, je commence à recevoir des attaques. Je viens de recevoir deux mails longs, de plusieurs pages, pour me défoncer. En disant que... Surtout sur l'usage du mot communisme, en disant que c'était inconséquent, que ça prenait pas en compte la violence historique du communisme, etc. Donc voilà. Et là, j'ai répondu. Aussi pas mal de pages, donc j'attends la réponse aux réponses. Et puis on verra.
Merci Guillaume. Merci. Si vous avez des questions, allez-y. Ouais. Et Marguerite?
Ah oui.